Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela.
El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás.
Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un champ de bataille qui fête ses 50 ans d'une bien triste manière. Il s'agit d'un champ qui s'appelle El Pueblo Unido. El Pueblo Unido qui est à la fois un support de mémoire, la mémoire vivante de cette tragédie politique qui est intervenue au Chili durant l'année 1973, mais qui est aussi un étendard universel contemporain qui se décline au présent et qui, pour bien des peuples qui se soulèvent aux quatre coins du globe, signifie de nos jours encore à la fois un cri de résistance et un cri d'émancipation. C'est un chant qu'on a pu entendre fredonner, voire entonner, encore il y a quelques temps, en Amérique latine, au Chili, en 2019, qui s'est de nouveau mobilisé, en Colombie, en Europe, même durant certains cortèges des manifestations sur le mouvement des retraites, en France, ou encore par des étudiants iraniens de l'université de Chorif à Téhéran. El Pueblo Unido, c'est typiquement ce genre de chanson qui a lié son sort à la tragédie des événements qui l'ont fait bifurquer de sa trajectoire initiale. Bifurquer de sa trajectoire initiale, pourquoi ? Parce que El Pueblo Unido, à la base, en tant que chanson, naît plutôt d'une séquence heureuse, celle des années dites d'unité populaire, une période qui couvre eh bien, toute la situation qui va de septembre 1970, date de l'élection du président socialiste Salvador Allende, jusqu'au 11 septembre 1973, date du coup d'état militaire de la junte avec Augusto Pinochet et l'intervention des États-Unis, c'est-à-dire de la Maison Blanche, mais aussi de la CIA, qui n'en fait plus grand mystère de nos jours, et qui n'ont pas fait que inonder de millions de dollars l'opposition, qui s'est directement immiscée dans ce processus qui a renversé un gouvernement démocratiquement élu. L'unité populaire, eh bien, c'est une expérience politique tout à fait singulière qui combine à la fois un processus institutionnel, électoral, on pourrait dire par le haut, avec un Salvador Allende qui prétendait pouvoir aller au socialisme de manière pacifique, c'est-à-dire sans guerre civile préalable. Et puis, ça a été aussi un processus par le bas de grande mobilisation populaire, d'auto-organisation populaire avec des assemblées, des comités dans les villes, dans les quartiers, dans les poblaciones, c'est-à-dire les bidonvilles, dans les entreprises aussi, qu'on appelait les cordons industriels. Durant l'année 1973, il y a des dizaines de milliers de travailleurs et de travailleuses qui ont été regroupés dans ces cordons industriels, en particulier dans la banlieue de Santiago. Donc, ça a été ces deux éléments-là qui parfois se répondaient de manière contradictoire, voire dialectique, mais qui forme ce qu'on peut appeler, oui, authentiquement, la révolution chilienne qui va de 1970 à 1973, ce que l'historien Franck Godichaud appelle « 1000 jours qui ébranlèrent le monde ».
À la lealtà del pueblo, responderé con la lealtà d'un militante socialista y como presidente de Chile, cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. Necesitamos una mejor y una mayor, y un mayor control en la distribución de los productos. Óiganlo bien, para aquellos que creen que yo a veces vacilo, hay que fortalecer el poder popular, los centros de madres, la junta de vecinos, la junta de abastecimientos y precios, los comandos comunales, hay que fortalecerlos, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular.
Eh bien, c'est au cœur de ces 1000 jours qui ébranlèrent le monde que la chanson El Pueblo Unido va voir le jour, notamment durant le printemps 1973, c'est-à-dire à un moment très particulier du gouvernement de l'unité populaire, où le gouvernement est finalement un peu pris entre deux eaux, coincé entre la contre-révolution chilienne et puis la révolution chilienne elle-même. La contre-révolution chilienne, c'est-à-dire l'oligarchie chilienne, les grands secteurs du patronat, une partie de l'état-major militaire qui complote depuis le départ, les États-Unis, comme je l'expliquais, qui depuis l'élection de Salvador Allende vont tout faire pour pouvoir le renverser, et ça par tous les moyens nécessaires. D'abord par le biais institutionnel, puisque Allende arrive en tête de l'élection en septembre 70, il n'a pas de majorité au Parlement, donc on tente de le renverser par ce biais-là, ça ne marche pas. Il y aura ensuite la méthode économique, avec le lockout, c'est-à-dire le blocage de l'économie. En octobre 1972, avec cette grande grève des patrons camionneurs, ça ne marchera pas non plus, restera donc l'ultime option, celle du coup d'État militaire, qui va connaître une répétition avant le 11 septembre 1973, à la fin du mois de juin 1973, qu'on va appeler le Tancazo.
Le lendemain, 29 juin, à 9h10 du matin, le 2e régiment blindé attaque le palais de la Moneda avec 6 tanks et quelques véhicules de transport. À 9h30, le Parlement, le pouvoir judiciaire et les partis de l'opposition n'ont toujours rien dit. Le reste des forces armées ne suit pas. Un peu plus tard, Leonardo Henriksson, un reporter argentin, filme son ultime plan. Il n'enregistre pas seulement sa propre mort. Il enregistre aussi, 2 mois avant le putsch final, le vrai visage d'un secteur de l'armée chilienne.
On a donc la contre-révolution d'un côté qui pèse et qui menace au printemps 73 le gouvernement Allende. Mais on a aussi une partie de la révolution chilienne qui s'impatiente et qui réclame que le gouvernement aille plus loin sur les questions sociales. Puisque les patrons décident de fermer leur usine histoire de contester la légitimité du gouvernement, pourquoi ne pas s'emparer des usines? Pourquoi ne pas les nationaliser, réclament des travailleurs et des travailleuses? Pourquoi ne pas faire passer ces entreprises dans ce qu'on appelait à l'époque être l'aire de propriété sociale, c'est-à-dire le secteur nationalisé? Il devait y avoir une centaine d'entreprises dans le programme d'Allende qui devaient être nationalisées de cette manière. Sous la pression de la mobilisation et des luttes, il y en aura plus de 300. Avec un débat pour savoir ce que c'est qu'une entreprise socialisée. Est-ce qu'elle est gérée par des administratifs envoyés par le pouvoir en place ou par des délégués issus des assemblées? Autant de choses qui sont racontées par exemple dans le documentaire de Patricio Guzmán qui s'appelle « La bataille du Chili ».
Le lendemain, Allende demande au Congrès de proclamer l'état d'urgence. Pendant ce temps, depuis le matin du 29 juin et dans tout le pays, Les travailleurs de gauche ont pris le contrôle des usines, entreprises, mines et centres agricoles.
De los 500 trabajadores de fábrica de envase ha sido la siguiente: fortalecer los cordones industriales, fortalecer los consejos comunales, fortalecer la junta de vecinos, fortalecer la CAP, fortalecer todos los organismos vivos de la comunidad, compañero.
Compañero, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta coyuntura para pasar a la ofensiva también en términos de ganar nuevos sectores, ¿no es cierto?, en términos de pasar nueva industria al área social.
Trabajadores, estamos en nuestro puesto de combate, que es nuestra fuente de trabajo, construyendo los elementos necesarios para defenderlos hasta el último ante cualquier arremetida del fascismo o ante cualquier intentona de otros sectores de las Fuerzas Armadas que intentaran derrocar el gobierno.
Une partie de la base de la révolution chilienne qui réclame aussi des armes le printemps 73 pour s'opposer à ce coup d'État que chacun pressent imminent. La distribution des armes auquel, jusqu'au bout, Salvador Allende va s'opposer, convaincu que par ses astuces politiques, il arrivera à dénouer cette grande tension politique. Salvador Allende, que l'histoire retiendra comme étant un réformiste qui refusera de distribuer les armes, mais qui va lui-même mourir les armes à la main le 11 septembre 1973. On est donc dans cette situation durant le printemps 73. C'est l'occasion de chercher à redorer un peu le blason du gouvernement de l'unité populaire. Et c'est une organisation politique qui va se coller à cette tâche. C'est le Parti communiste chilien qui, justement, va faire appel à son réseau d'artistes, de musiciens. Et le Parti communiste chilien en a beaucoup à l'époque. On pense à Pablo Neruda, on pense à Victor Jara. Et il y a aussi un compositeur, pianiste, qui s'appelle Sergio Ortega et qui est membre de la commission culturelle du Parti communiste. Et c'est lui qui va tout simplement réaliser la chanson « El Pueblo Unido ». C'est à lui qu'on doit « Venceremos », qui était l'hymne musical du gouvernement de l'unité populaire. Et il a ce talent de produire cette mélodie qui imprègne immédiatement les esprits. Les paroles, elles, seront le fait d'un groupe de musique liée aussi au Parti communiste qui s'appelle Quilapayún. En langue mapuche, ça signifie les trois barbus. On est aussi dans le prolongement de ce renouveau musical qui est intervenu au Chili dès les années 1960, qu'on appelait la nouvelle chanson chilienne, qui est à la fois un mélange de musique traditionnelle, folklorique, latino-américaine, y compris avec une inspiration andine, avec de l'autre, des textes à forte connotation sociale. J'allais dire, la grande figure de la nouvelle chanson chilienne, c'était Violeta Parra. Et donc, José Ortega s'intègre dans ce mouvement-là et a le génie de produire El Pueblo Unido. Durant le printemps 73, la légende raconte que la première représentation publique a lieu à l'occasion d'une manifestation allendiste pour le droit des femmes. Une chose est claire, en tous les cas, c'est qu'à ce moment-là, cette chanson ne fait pas nécessairement l'unanimité dans les rangs de la révolution chilienne. Là aussi, on a des documentaires qui montrent à quel point certains cortèges révolutionnaires, ceux du MIR en particulier, mouvement de la gauche révolutionnaire dirigé par Miguel Enriquez, substituent régulièrement le mot « armado » au mot « unido » dans la chanson « El Pueblo Unido ». C'est le peuple armé, d'après eux, qui ne sera jamais vaincu. Et puis, il va y avoir cette bifurcation du destin de cette chanson qui va intervenir avec le coup d'État lui-même, avec une petite histoire qui se niche dans l'histoire elle-même. Cette petite histoire, notamment, tient au fait que le groupe Quilapayún va être invité le 9 septembre 1973 en France, je vous le donne en mille, où ça, à la Fête de l'Humanité. Et ils vont assurer leur représentation. Vous l'avez compris, le 9 septembre 1973, on est deux jours avant le coup d'État, et les Quilapayún ne vont pas rentrer de sitôt au Chili. Et comme d'autres groupes, ils vont battre les estrades européennes pour entonner ce chant qui, dès lors, va devenir un peu le chant des exilés, des militants et des militantes chiliens et chiliennes qui vont venir s'installer et être accueillis dans plusieurs pays européens. Le chant aussi de ceux qui revendiquent leur solidarité avec ces exilés et qui va marquer des générations entières. Sachons toujours que les comités de solidarité avec le Chili en France ont regroupé plus de 600 000 personnes. C'est dire à quel point l'histoire politique française à gauche est écrite également à l'encre de l'histoire politique chilienne. Et c'est important, et je termine en vous racontant une petite anecdote, à l'occasion de la préparation d'un documentaire sur le MIR, qui est en cours, auquel je participe, donc en particulier sur Miguel Enriquez, il y avait un exercice dans la formation à laquelle je participais, qui consiste à donner à entendre son film, uniquement à entendre, avec un montage de 6 ou 7 minutes projeté dans une salle noire, où vous pouvez avoir recours à tout ce qui vous semble bon d'un point de vue sonore, des notes d'ambiance, des bruits de manifestation, des entretiens ou des chansons. Et donc, j'ai eu l'occasion de projeter mon montage dans un petit groupe d'une quinzaine de personnes politisées sans être militant. Et c'est tout à fait troublant parce que, en fait, le retour que j'ai eu à ce moment-là, c'est de comprendre que, pour l'écrasante majorité, chacun situait qu'il y avait eu une période sombre au Chili, une dictature, avec le nom d'un affreux qui était Pinochet. Parler d'Allende, on perdait déjà la moitié de l'assistance. Le MIR, il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait. En revanche, tout le monde, je dis bien tout le monde, connaissait la chanson El Pueblo Unido. Et ça, c'est troublant, parce que ce qui m'intéresse, c'est comment cette chanson a réussi, justement, à se forger un chemin jusqu'à nous. Ça prouve que la mémoire politique, même des générations vaincues, ne part jamais dans le sable, elle se réinvite régulièrement, et même de manière positive aujourd'hui dans nos combats, parce que, en effet, cette chanson a bien raison, le peuple uni, ça paraît une évidence, mais ne sera jamais vaincu.